Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. C'est la rentrée et c'est avec plaisir que l'on se retrouvera tous les mercredis en direct de 17h à 18h sur Marmite FM pour parler bien sûr de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos premiers invités de la saison 2019-2020, Léa Zdravkovic d'abord, qui est responsable prévention sécurité pour la mairie de Trappes. À l'occasion du Grenelle contre les violences faites aux femmes lancé hier par le gouvernement, elle nous parlera des actions mises en place ici à Trappes pour lutter contre ce fléau. Nous recevrons également Marc Duprat, qui est délégué syndical CGT à l'hôpital de Poissy. Avec lui, nous reviendrons longuement sur les causes des grèves dans les urgences un petit peu partout en France. Dans Marmite fait son actu, Gaël nous parlera de l'actualité du cinéma Le Grenier à sel de Trappes. Et le point sur l'actu local, c'est à 17h30 avec le flash actu de Julien Mathieu. Allez, on ne change pas d'habitude, on commence cette émission en musique avec les Jackson 5. On revient juste après avec Gaël pour parler cinéma.
You
Jackson 5 sur les ondes de Marmite FM 88.4, 17h passé de 8 minutes. C'est votre émission Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h. Et on commence cette saison 2019-2020 avec Gaël Pinault.
Tout de suite, l'actualité du cinéma Le Grenier à sel avec Gaël.
Salut Gaël, comment ça va ?
Salut Nouradine, salut tout le monde.
Ça va, ça a été les vacances ?
Oui, merci.
De retour ?
De retour.
Avec des travaux devant le grenier à sel ou ça va maintenant ?
Alors, les travaux sont suspendus. Les travaux dans la rue sont suspendus. Maintenant, il y a des travaux à l'Étoile d'Or, l'ancien café, l'ancienne auberge qui va redevenir un café culture. Ouais. Donc, c'est un petit peu animé autour du cinéma, mais c'est pas... Ça pose pas de problème dans la salle, ça pose pas de problème. C'est même plutôt positif. Il faut effectivement du mal pour. C'est un mal pour un bien, effectivement. S'il y a un peu de poussière, un peu de véhicule et tout ça, c'est. On va tous en profiter plus tard. Bon voilà, on est revenu.
Bah, vous êtes revenu, vous avez rouvert les portes en mois d'août, je sais plus le.
On avait fermé 3 semaines comme tous les ans à la période bien creuse où il y a personne.
Ouais.
Et comme évidemment, je regrette pas parce que l'été a pas été terrible en termes d'entrée. Le film qui a le mieux marché, c'est un peu comme dans tout le reste de la France cet été, c'est Le Roi Lion qui a bien marché. Donc nous, on l'a eu. On a attendu la réouverture pour la voir et donc le public était au rendez-vous, les enfants et tout ça, donc c'est super. On est content et voilà, donc on reprend l'année.
Donc c'est parti pour une nouvelle saison.
C'est parti pour une nouvelle saison. Donc là, t'es prêt pour que je te dise les films de la semaine ?
Je suis
prêt. Ouais, ok. On a 5 films cette semaine. On a repris Toy Story 4 puisqu'il était passé pendant les vacances et qu'il y a peut-être des gens qui l'ont manqué ou des gens qui ont envie de le revoir. On a repris Toy Story. Comme la semaine prochaine, on reprend Le Roi Lion aussi. Donc vous pouvez faire un petit peu les séances de rattrapage. On reprend aussi Parasite puisqu'il y a une version française qui est sortie. Parasite, donc la Palme d'Or.
Superbe film.
Fantastique film.
En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais.
Donc, ces films-là sont des films qui sont pas tout neufs, mais qu'on se permet de reprendre pour ceux qui les ont manqués, sont envie de les revoir. La petite nouvelle, c'est comme les travaux sont terminés, on reprend aussi les séances du ciné-club qui ont lieu en journée le lundi, un lundi par mois à 14h. On ne pouvait pas le faire parce que les séances étaient perturbées par les travaux. Ouais. Donc maintenant, il n'y a plus de bruit dans la rue, on reprend les séances. Donc le film qu'on avait annulé au mois, le dernier ciné-club qu'on avait annulé qui était avec le film Les Invisibles, on le reprend. Donc on reprend Les Invisibles le 16 septembre, lundi 16 septembre. C'est pas cette semaine, mais ça me permettait quand même de rassurer tous ceux à qui nous avons manqué, puisqu'on nous a beaucoup, dit que ça avait manqué ces séances. Alors, les séances de la semaine, ça y est, j'y viens. Donc Toy Story, je l'ai dit. On a aussi un 303. 303, c'est un film petite découverte. C'est une romance sur un fond de road movie qui se passe... pendant les vacances, l'été, entre l'Allemagne et l'Espagne, un jeune homme fait du stop. Il est pris en stop par une jeune femme qui est avec un vieux van 303 et ils partent tous les deux. Donc on est dans un... On prend le temps, on se promène, on découvre, on fait connaissance. Elle va rejoindre son amoureux en Espagne. Lui, il n'a pas trop de... pas trop d'ambition, il se promène et on part avec eux en vacances, on a vraiment envie de repartir en vacances en les voyant. Donc ça s'appelle 303, c'est un film allemand. Nous avons aussi Perdri, c'est un petit peu difficile à raconter. Perdri, c'est aussi un petit peu difficile à classer puisque moi je le mettrais dans la catégorie comédie. Mmh. C'est une comédie française avec Fanny Ardant, Swann Arlo, Maud Wheeler le Perdri, c'est le nom du personnage. Pierre Perdri, il est gendarme dans sa petite ville de province, comme on dit. Et il habite avec sa famille, avec sa mère, qui est jouée par Fanny Ardant. Il habite avec son frère, le fils de son frère. Et d'un seul coup, une jeune Juliette débarque dans son existence et elle vient tout chambouler. Donc c'est vraiment, je peux pas raconter vraiment grand chose. Il est difficile à expliquer, mais c'est un film où il se passe plein de choses. C'est un peu une chronique familiale. C'est aussi de la comédie. C'est C'est une petite découverte, voilà. Donc, je venais voir Swan Arlo dans Perdrix. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous le garantis. Nous avons aussi Ma famille et le loup, que j'aime beaucoup. C'est une comédie un peu dramatique dans laquelle on retrouve Carmen Mora, donc l'Espagnole, que l'on a vu beaucoup dans les films d'Almodovar. Donc le réalisateur, c'est Adrián Garcia, qui est espagnol. C'est un film pourtant français, tourné en France. Adrián Garcia, il avait réalisé il y a un petit bout de temps déjà Nocturna, la nuit magique, un film d'animation qui est vraiment hors norme et que je conseille, si vous ne l'avez jamais entendu parler de ça, montrez ça à vos enfants, donc Nocturna, la nuit magique. Et donc là, il revient avec un film en prise de vue réelle, comme on dit, avec des vrais acteurs. Et je vais vous raconter l'histoire, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Le jeune Hugo, qui a 9 ans, il vient passer ses vacances en famille chez sa mamie, jouée donc par Carmen Mora. Et elle leur raconte à ses enfants, à ses cousins, elle leur raconte l'histoire familiale, comment l'a raconté le grand-père, etc. Et puis, elle leur raconte que le loup va venir la chercher.
Ouais.
Les enfants sont pas terrorisés, ils n'ont pas peur, hein. Au contraire, et ils sont très, ils se mobilisent, ils se soudent pour sauver leur grand-mère contre le loup qui va venir la chercher. Ouais. Et ils se lancent vraiment dans des aventures incroyables. Et ça mélange la fiction et la prise de vue réelle, pardon, et l'animation. Je vous avais dit que le réalisateur venait de films d'animation. C'est très belle histoire à découvrir avec les enfants, 7, 8, 9 ans, pour les papis, mamies, les adultes. Vraiment, c'est
un film familial.
C'est un vrai film familial, je dirais de l'été, de la fin de l'été. C'est très beau et j'aime beaucoup ça. En tout cas, je vous le conseille personnellement parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Et le dernier film de la semaine, c'est le film de Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière, un polar dans lequel on voit briller Roche Dizem, Léa Seydoux, Sarah Forestier. Ça se passe évidemment à Roubaix, comme son titre l'indique. Roche Dizem s'appelle Daoud dans le film et c'est le chef de la police locale. Et il y a une vieille dame se fait assassiner. Et ils vont donc mener l'enquête, et notamment chez leurs voisines, les voisines de la victime, pardon, c'est les deux jeunes femmes jouées par Léa Seydoux et Sarah Forestier. Et elles sont arrêtées, mises en examen, et c'est toute leur histoire entre elles, leur relation entre elles, le personnage. Enfin, vous connaissez Roche Dizem, vous savez que c'est un acteur qui est brillant et qui... Et qui porte toujours les films. Et là, c'est le cas aussi. Donc, venez découvrir ça. Vous savez aussi que toutes les semaines, que nous mettons en avant le cinéma de demain, c'est-à-dire les courts-métrages. Ceux qui font des longs-métrages aujourd'hui, ils n'ont pas commencé comme ça d'un seul coup en faisant des longs-métrages avec des grands moyens. Ils ont commencé avec des petits films, des courts-métrages. Et toutes les semaines, en première partie des films de 20h45, il y a un court-métrage. Cette semaine s'appelle Souffle court. Ça a été réalisé à l'école des Gobelins, donc une école de films d'animation à Paris. Et donc Souffle court, ça dure 5 minutes. Voilà, vous retrouvez tout ça sur notre site internet, cinemagreniersel.com.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé. Si, maintenant on a le .fr aussi. Cinemagreniersel.fr, ça marche aussi.
Ah, ça marche aussi.
Ouais.
Bon, ok. En tout cas, merci Gaël et à la semaine prochaine.
Merci à Noradine, merci à la Marmite, merci à vous.
Allez, on passe au premier invité de Marmite fait son actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Marc Duprat est avec nous par téléphone. Bonjour. Vous êtes délégué syndical CGT à l'hôpital de Poissy. Vous êtes avec nous pour nous parler des grèves qui frappent actuellement les urgences en France. Et nous allons d'abord parler, si vous le voulez bien, de la situation à l'hôpital de Poissy. Vous étiez en grève du 18 juillet au 2 août dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, il y avait déjà une grève au niveau national.
Oui.
Hein, et il y avait aussi des revendications locales. Mmh. Voilà, donc qu'on a mis en exergue devant la direction, à savoir en déposant un préavis. Donc, il y avait pas mal de revendications par rapport à ça.
Donc, alors, on ne va pas toutes les citer, puisque vous m'aviez dit qu'il y en avait, il y a beaucoup de revendications qui étaient posées sur la table.
Ouais, et il y en a eu pas mal qui ont été finalement acceptées. Donc, voilà, c'est surtout ça le truc qui est intéressant. C'est qu'on a posé des conditions, on a demandé quand même que ça soit pris en compte, vraiment, sachant que pratiquement tout le personnel était en grève. Donc déjà, ça a été un moyen de pression. Donc au niveau des revendications, il y avait notamment un poste d'infirmières en plus la nuit, hein, sachant que la nuit et le jour, c'est à peu près la même activité. Hein. Donc,
Et qu'il y avait moins de personnel la nuit.
Oui, ouais. Exactement. Voilà, il y avait une infirmière de moins. Bon, on a obtenu une aide-soignante en plus, ce qui est déjà pas mal.
Ouais.
Voilà. Ensuite, ce qu'on demandait aussi exactement avec le personnel, c'est d'avoir un adjoint administratif, celui qui saisit les dossiers des entrants. Mmh. Alors, dès qu'un patient arrive, il faut saisir son dossier, etc. Ça prend du temps et souvent, c'était les soignants qui s'occupaient de ça, bon, ce qui n'est pas leur boulot. Donc, on a aussi obtenu presque, je dis presque, parce que la réponse est un peu alambiquée de la part de la direction, on a presque obtenu un poste de plus, notamment le week-end, alors qu'à la base, on le demandait H24.
D'accord.
Donc ça aussi, c'est pas mal. Ensuite, il y a aussi la problématique de tous les congés maladie, congés maternité, etc., qui sont pas remplacés.
Donc ça, alors, quand les congés maladie ne sont pas remplacés, comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que c'est vous qui assumez tout le travail, même des absents?
Exactement. Ça veut dire que c'est à flux tendu, H24. Mmh. C'est tout le temps les mêmes qui font tout le temps le même boulot. Donc, vous voyez, il y a une tension telle au niveau des urgences que des fois, il y a un turnover énorme.
Ouais.
Parce que forcément, les gens ne viennent pas. Hein. Physiquement, on ne peut pas tenir. Moralement, on ne peut pas tenir. Mmh. Hein. Il y a beaucoup de choses qui font que, voilà, c'est intenable à ce niveau-là. Et ça, ils l'ont un peu compris. Mais il y a aussi le problème du recrutement derrière.
Donc, et parce que ça, c'est un argument qu'on peut vous opposer. C'est-à-dire de dire que, OK, on veut bien recruter. Mais il faut attendre que les gens soient formés. Il n'y a pas forcément de personnes compétentes. C'est ça qu'on vous dit?
Alors, c'est ce que la direction dit.
D'accord.
C'est pas ce qu'on dit, nous. Vous voyez, ouais. Bah ouais, ça, c'est une grosse différence, ça. Hein, c'est qu'ils ont des critères de recrutement qui ne sont pas forcément en accord avec ce qu'on pense. À savoir qu'on ne sait pas trop quels sont les critères de recrutement, finalement.
D'accord.
Ah bah oui, c'est un langage de direction, vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Oui, mais on veut quelqu'un qui soit compétent en ci, en ça. Les études d'infirmières ont changé, donc voilà ce que ça donne. On peut pas recruter telle personne ou telle personne ou telle personne. Ça, on y croit à moitié. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Bon, maintenant, ils ont fait une avancée là-dessus. On va pas se plaindre. Mmh. Il y avait aussi une problématique d'agents de sécurité.
Oui. Ah bah, et vous aviez avant, pas d'agents de sécurité la journée, mais le soir.
On n'avait que la nuit. Alors, je ne sais pas pourquoi que la nuit, mais a priori, il y a longtemps, il y a eu une agression au couteau, donc ils se sont dit, oula, on va mettre un agent de sécu la nuit, mais le jour, ça peut arriver aussi, hein, par rapport aux incivilités, soit des patients, soit des accompagnants. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui font que le personnel soignant se retrouve pris à négocier des choses qu'ils n'ont pas à faire. Avec un agent de sécu, ça va 9 fois plus vite.
Ouais.
Ça, il faut être très clair. Donc ça, on l'a obtenu. C'est sur une période d'essai, ça c'est sûr. C'est sur 6 mois, ce qui a garanti la direction, mais voilà. Donc déjà, c'est un bon point.
En tout cas, il y a eu des avancées à ce niveau-là. On remarque quand même que la plupart des revendications que vous faites, c'est sur un manque de personnel et que ce n'est pas forcément des revendications salariales ou autres qui ont été mises en avant.
Alors, les revendications salariales, elles sont sur le plan national.
Sur le plan national, voilà.
Ouais, voilà. Donc ça, c'est, faut voir ça avec Madame Buzyn, hein, qui lâche 50 millions d'euros alors qu'il faut 2 zéros de plus, quoi. Donc c'est tout ça. Donc ça, on rentre pas là-dedans. Ça, c'est les grands chefs qui s'en occupent. Mmh. Mais au niveau local, on a quand même obtenu des choses qui sont pas mal du tout, quoi. Par rapport à ce qu'on a demandé, on a demandé le bras, on espérait le doigt, et finalement, on arrive au coude. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc ça a été.
C'est ce qu'on appelle la négociation.
Bah ouais, mais c'est pas toujours facile, les négociations, vous savez. Enfin, je sais pas, vous avez peut-être pas fait, mais voilà. Mais par contre, ce qui est important de souligner, c'est que vraiment, tout le personnel des urgences, pratiquement, quoi, 90%, était gréviste. Mmh. Donc ça, c'est un moyen de pression. Donc c'est le message que je veux faire passer un peu. C'est si vous voulez obtenir des choses, il faut que tout le monde s'y mette.
Mmh.
Nous, on est là pour aider les agents, juste ça, hein, pour les motiver éventuellement, essayer de les orienter quand il y a des questions un peu techniques. Mais c'est notre boulot, nous. Alors, on ne leur a pas signé l'accord en l'État, en tant que CGT, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
Mais les agents étaient d'accord. Donc, OK, on signe, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour aider les gens. C'est juste ça. Alors, il y avait d'autres choses. Hein. Il y avait des problèmes de sécurité aussi sur les urgences. On rentrait comme dans un moulin, quoi. Hein.
Donc, vous avez toutes sortes de problématiques voilà, que vous avez posées sur la table pour l'hôpital de Poissy. Est-ce qu'on peut parler maintenant, Marc Duprat, de ce qui se passe au niveau national avec ces grèves qui se généralisent un peu partout en France, notamment dans les hôpitaux publics? Je rappelle que l'hôpital de Poissy, c'est un hôpital public. Alors, quelle est la raison principale des grèves? Parce que il y a des collègues à vous hein, qui sont également en grève, même si on reviendra tout à l'heure sur la spécificité des grèves dans les hôpitaux publics.
Écoutez, c'est pas compliqué, c'est des conditions de travail inadmissibles. Alors que ce soit sur Poissy ou sur tous les autres hôpitaux de France et de Navarre, les hôpitaux publics, ils sont tous en effectif minimum au niveau des urgences. Normalement, quand vous déclenchez une grève, le patron il dit ok, effectif minimum. Mais c'est toujours en effectif minimum, donc ça ne change absolument rien. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
Et puis les patients, au lieu d'attendre 2 heures, ils attendent 6 heures, 8 heures, 10 heures. Après, ils restent combien de jours dans les couloirs? Parce qu'il manque de lits aussi en France. Hein, il y a 100 000 lits qui ont été supprimés en 20 ans.
Dans le public.
100 000 lits. Dans le public. 100 000. Vous vous rendez compte? Et après, hein, le petit papy ou la petite grand-mère qui est dans le couloir pour une prothèse de hanche ou un truc comme ça, ou un col du fémur, il attend des jours. Ça, c'est pas admissible. Ce n'est pas admissible, mais ça, c'est une volonté politique. C'est une volonté politique de privatiser complètement la santé. C'est tout, voilà. C'est mon avis, c'est l'avis de la CGT aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est au niveau salaire, etc. Vous rendez compte, une infirmière qui démarre, elle démarre à 1600 euros. Et plus 4 pratiquement. C'est scandaleux. Hein,
en sachant que c'est des grilles tarifaires qui sont, en tout cas dans le public, ce sont des grilles qui sont figées.
Ah bah oui, c'est figé. C'est le gouvernement qui décide de tout. Et après, on peut basculer sur la retraite, ce qui nous prépare. C'est exactement ça. Hein, la retraite par points, c'est exactement ça. Ils diront le point, il vaut tant cette année. Ah, c'est une mauvaise année, le point, il vaut tant. Hein, c'est une bonne année, le point, il vaut tant, mais pas autant qu'il aurait dû. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une arnaque, tout ça. C'est une arnaque, mais c'est ce que nous prépare M. Macron et toute sa clique. Quoi. Voilà.
Alors, Marc Duprat, quel peut être l'impact d'une grève? On en a parlé un petit peu, mais quel peut être l'impact d'une grève dans le public quand on sait que, de toute façon, vous faites grève, mais bon, déjà, vous êtes un service d'urgence, donc vous êtes quand même dans l'obligation d'accueillir, ce qui est normal en même temps, hein, d'accueillir des patients, surtout ceux qui sont dans des situations compliquées. Mais quel peut être l'impact d'une grève dans le public quand on sait que, de toute façon, vous êtes obligé de... quasiment obligé des fois, puisque j'ai entendu qu'on allait même chercher les gens chez eux parfois, d'aller travailler?
Si vous voulez, la problématique d'un hôpital, c'est que voilà, vous avez un devoir à faire, c'est de soigner les patients.
Ouais.
Quoi qu'il arrive, même si vous êtes gréviste, et tout le monde peut être gréviste, vous êtes ce qu'on appelle assigné. La direction signe un papier, vous êtes assigné. Vous êtes gréviste, ok, vous êtes compté comme gréviste, mais vous travaillez. Voilà, si vous voulez, c'est pas... Moi, ce qui me gêne, c'est que tous les directeurs, ils dirigent ça comme une entreprise normale, mais ce n'est pas une entreprise normale, puisque il y a de l'humain derrière. Donc, on est forcé de travailler. Ça ne me pose aucun problème. Mais la production ne s'arrête pas. Une entreprise normale, la production s'arrête. Et là, le patron, il est vraiment en galère. Tandis que là, on a finalement assez peu de moyens de pression. On a très très peu, si par rapport au CHSCT, comité d'hygiène, sécurité, etc., où là on peut, même pas obligé, mais on peut au moins faire comprendre au directeur qu'il y a un problème. Mais ça s'arrête là, si vous voulez, on a très très peu de pouvoir. Ça, faut être honnête, on a très très peu de pouvoir. Mais quand tout un service vraiment se met autour... d'un syndicat ou même d'un leader naturel au sein de l'équipe, hein, ça c'est pas un problème. On peut quand même exercer une pression et obtenir des choses. Voilà.
Alors vous parliez tout à l'heure de privatisation des hôpitaux publics, hein, c'est ce que vous prêtiez comme intention en tout cas au gouvernement actuel. On entend souvent dire que près de la moitié des gens qui vont aux urgences ne devraient pas y être. Est-ce que c'est lié justement à ce que vous appelez la privatisation des hôpitaux publics ou de la santé carrément plus généralement? Est-ce que c'est une conséquence le fait d'avoir de plus en plus de gens aux urgences?
Non, le problème il n'est pas là. Le problème c'est qu'il y a plusieurs secteurs. Il y a la médecine de ville, qui est quand même pas dans un bon état, à savoir qu'il y a très très peu de médecins de ville, de moins en moins en tout cas. Donc tenir un rendez-vous dans les 24 heures, je vous mets au défi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens, ils vont où? Ils vont aux urgences. Ensuite, il y a un deuxième facteur. Les gens qui ont très très peu de revenus, qui n'ont pas de mutuelle. Parce qu'une mutuelle, même si ça coûte 5 ou 10 euros par mois, il y en a qui ne peuvent pas se permettre de payer ça. Ils vont où? Aux urgences. Donc il y a une saturation des urgences, finalement, qui se tourne vers la, ce qu'on appelle la bobologie. Vous voyez ce que je veux dire? Pour des petits trucs qui ne relèvent pas des urgences, mais ça sature les urgences. Donc on rentre dans un cercle un peu infernal, à savoir, il n'y a plus de médecin de ville, ou je n'ai pas les moyens d'aller en ville, et on se retrouve aux urgences. Donc tous ces facteurs font que finalement on se retrouve dans des listes d'attente qui vont, comme je vous ai dit, jusqu'à 6, 8 heures sans problème sur les urgences. Ouais. Alors ensuite, il y a aussi une volonté politique de privatiser la santé, à savoir qu'un hôpital coûte a priori plus cher qu'un hôpital, un hôpital privé coûte moins cher qu'un hôpital public, sachant que la pression dans le privé est équivalente à celle dans le public, voire pire. Donc là, on est dans... C'est un choix politique qu'il faut faire. Voilà, tout à fait.
Alors justement, en parlant de politique, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a annoncé des mesures pour sortir de la crise. Je vous en livre quelques-unes. Des filières directes, notamment pour les personnes âgées, pour mettre fin à ce qu'elle appelle le tout urgence, c'est-à-dire pour les personnes âgées, elle souhaiterait proposer la mise en place de filières d'admission directe pour cette population particulière, avec même une incitation financière pour les hôpitaux qui mettraient en place cette espèce de filière. Il y a la vidéo-assistance entre les EHPAD et le SAMU, il y a la possibilité d'envoyer une ambulance vers un cabinet de ville, l'élargissement encore des fonctions des personnels paramédicaux qui apparemment ne peuvent pas faire certains actes médicaux. Voilà, et puis également des petites propositions sur les filières et sur la formation. Qu'est-ce que vous pensez de ces propositions?
Alors, vous pouvez me dire le budget de tout ça?
Ah, pour l'instant, il n'y a pas de budget qui a été annoncé.
Voilà.
70 millions ont été annoncés en juin, 70 millions, mais ça n'a pas baissé, en tout cas, la colère des grévistes.
Ben oui, mais pourquoi, d'après vous? 70 millions, c'est quoi? Il manque combien de zéros, d'après vous? Le problème est beaucoup plus vaste que ça. 70 millions, mais vous voulez faire quoi avec 70 millions? Hein, une petite mamie qui a un col du fémur, ok, vous allez l'envoyer dans une EHPAD, mais il faut trouver une EHPAD, il faut trouver un lit. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Quels sont ses revenus? Est-ce qu'elle a une mutuelle? Vous voyez, tout ça, c'est on peut pas résoudre ça avec 70 millions, c'est impossible. C'est impossible. Donc, voilà. Mon avis, c'est que la santé, ça n'a pas de prix, donc faut mettre de l'argent. Alors, on va le dire, il n'y a pas d'argent. Écoutez, on est quand même la cinquième puissance du monde, donc je pense qu'il y a un peu d'argent en France. Il faut juste le prendre où il est. C'est tout.
Merci en tout cas à Marc Duprat d'avoir répondu à nos questions sur Marmite FM.
Ok. Je veux juste revenir sur votre reportage d'avant. Il y avait le très très court métrage aussi, il y a une vingtaine d'années.
Oui.
Voilà, donc je n'y ai pas participé, mais mon frère y a participé et c'était vraiment super. Voilà.
D'accord, très bien.
Ben voilà.
Merci beaucoup pour cette information supplémentaire. En tout cas, Marc Duprat, je rappelle que vous êtes délégué syndical CGT à l'hôpital de Poissy. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
17h, passé de 31 minutes sur les ondes de Marmite FM 88.4. On écoute Tikenja Fakoli, musique.
Yes, I am Tikenja Fakoli, spécial dédicace à tous les auditeurs de Marmite FM, Rastafari. Yes, la marmite, on dit dans les vieilles marmites, on trouve toujours la bonne sauce. Yes, I am.
Maman, je pense à toi, je t'écris. D'un 3 étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. Là tous ensemble on survit. On est manque presque derrière. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Étranger dans votre ville, je suis africain à Paris.
en première classe. C'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au bout de ma fée.
Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Aussi. Je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé.
Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris.
Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris.
Tiken Jah Fakoly sur les ondes de Marmite FM 88.4. Il est 17h, passé 36 minutes. Vous écoutez l'émission du mercredi de 17h à 18h sur Marmite FM, c'est-à-dire Marmite fait son actu. Tout de suite, le flash actu.
Bonjour à toutes et tous, on commence avec la ville de Villepreux qui alerte le gouvernement sur l'épandage de pesticides. Le premier adjoint au maire, Thierry Hessling, a écrit au ministre de la Transition écologique et au ministre de l'Agriculture pour dénoncer les produits nocifs utilisés à proximité des habitations aux alentours des terres concernées. En effet, à Villepreux, plus des deux tiers du territoire se trouvent en zone agricole. La ville saint-quentinoise s'implique déjà beaucoup dans les démarches écologiques. Près de 25% des cultures locales sont déjà bio depuis 2015 et la mairie veille à l'application d'une politique zéro phyto dans ces espaces verts. Et bien justement, Thierry Hessling va également demander aux agriculteurs locaux de signer une charte zéro phyto afin d'abandonner l'usage des pesticides au moins sur les bandes de terrain proches des habitants. À Guyancourt maintenant, l'association Du Fun pour tous, accueillant des enfants en situation de handicap mental, vit une situation critique. Le centre de loisirs de l'association devait réouvrir la semaine dernière, mais ça n'a pas pu être le cas. La caisse d'allocation familiale, qui était le principal financeur de l'association, a divisé par 3 ses subventions. En fait, cette baisse d'aide financière est principalement due à un contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale. Selon les normes, la dénomination « centre de loisirs » ne convenait pas et l'accueil de jour n'était juridiquement pas prévu. Le centre de jour a donc fermé en mai. Depuis, le centre de loisirs adapté s'est remis aux normes légales, mais il semblerait que la CAF n'ait pas reçu à temps les documents nécessaires. La sanction est lourde, les subventions sont passées de 58 000 euros à 20 000 euros. Le directeur du centre, Bruno Grosvalet, parle de, je cite, « mesures drastiques pour éviter de fermer l'association ». Malgré tout, il espère encore négocier une augmentation du montant du financement. Affaire à suivre. Et puis, pour terminer, le forum des associations a lieu dans toutes les villes de l'agglomération ce week-end, entre 9h et 17h samedi prochain pour la plupart, excepté les Clés-sous-Bois qui organisent son forum le dimanche. Voici donc une rapide liste des différents lieux de rencontre de l'agglomération. Le gymnase du Moulin à Vent à Coignières, le complexe sportif Europe à Élancourt, le gymnase des droits de l'homme à Guyancourt, le gymnase de la Fraternité à La Verrière, l'espace Philippe Noiret au Clés-sous-Bois, le dimanche donc, je le rappelle, le gymnase Chantal Manduit à Magny-les-Hameau, le gymnase de la Malmedonne à Morpat, le centre sportif Pierre de Coubertin à Montigny, le palais des sports à Plaisir, le complexe sportif Broustal à Trappes, le gymnase Alain Mimoun à Villepreux, et puis pour terminer, le centre sportif Les Pyramides à Voisins, le Bretonneux.
Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. On passe au second invité de Marmite Actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Léa Zdravkovic qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Noraline.
Vous êtes responsable de la prévention sécurité pour la mairie de Trappes. Merci d'être avec nous. Hier, le gouvernement a lancé le Grenelle contre les violences faites aux femmes, notamment avec un discours du Premier ministre Édouard Philippe. Et à cette occasion, nous vous recevons pour savoir ce qui est mis en place, notamment à Trappes, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Est-ce que vous pourriez, pour commencer d'abord cet entretien, nous parler plus en détail de vos missions de ce poste de responsable prévention sécurité?
Donc parmi les missions que regroupe mon poste, j'ai la charge du contrat de local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ouais. Et parmi les axes, on a l'axe 4 qui correspond à l'aide aux victimes, et donc ça englobe la lutte et la prévention contre les violences faites aux femmes, ainsi que les dispositifs de prévention autour de l'égalité hommes-femmes.
Mmh. Alors les chiffres justement du nombre de féminicides sont encore importants cette année. Au 1er janvier, ils sont de
100. De cette année, depuis le 1er janvier, on est à 101 femmes décédées sous les coups de son conjoint, ex-conjoint.
Alors on va rappeler un petit peu quelques chiffres, hein. Je ne sais pas si on devrait dire cynique ou triste de rappeler ces chiffres. Donc 121 femmes qui sont mortes sous les coups d'un conjoint, d'un ex-conjoint en 2018. Il y en avait 130 en 2017, 123 en 2016, 122 en 2015. Et puis enfin, on pourrait continuer comme ça. En préparant cette émission, vous m'avez même dit plus de 140 il y a quelques années. Alors une réflexion sur ces chiffres. C'est très difficile de poser cette question, parce que j'allais dire que les chiffres sont moins importants qu'il y a quelques années, qui sont à la légère diminution, mais ils restent quand même très importants.
Effectivement, on constate quand même une évolution peut-être en baisse sur ces chiffres-là. Il y a de nombreux dispositifs qu'on puisse mettre en place de protection envers ces femmes-là, mais effectivement, c'est un chiffre qui reste toujours trop haut, et j'ai pas les chiffres de cette année en tête, mais on oublie aussi le nombre d'enfants victimes lors de conflits entre parents, mais on est autour d'une quarantaine d'enfants qui décèdent dans le cadre de violences conjugales.
Ah, oui. D'accord. Effectivement, on ne le rappelle pas souvent. Alors, quels sont les moyens justement mis à disposition des femmes qui sont dans ces situations de danger à Trappes?
Alors, sur la ville de Trappes, on a la chance d'avoir eu un dispositif qui a commencé par être expérimental, qui s'est ensuite généralisé à plein d'autres villes. C'est le pôle psychosocial au sein du commissariat de Trappes. Mmh. Donc, on va dire que c'est je vais le dire comme la première étape, mais voilà, possibilité de déposer plainte et d'avoir l'accompagnement d'une assistante sociale ou d'une psychologue pour l'accompagnement des victimes. Donc il y a ensuite tout un travail, c'est pas un travail de fond qui est mené, mais c'est un travail ensuite de relais envers les partenaires locaux.
Parce que c'est une vraie problématique, ça, le fait de porter plainte justement pour les femmes.
Exactement. Et là, au sein du pôle psychosocial, il y a du personnel formé, à l'écoute, qui permet ce dépôt de plainte en toute confiance. Et aussi une sensibilisation. Quand on a un pôle psychosocial au sein d'un commissariat, il y a aussi la sensibilisation des autres policiers et des autres collègues. Il y a également d'autres lieux où les femmes victimes peuvent se tourner, vers lesquels les femmes victimes peuvent se tourner. Il y a le CCAS, donc le centre communal d'action sociale, qui se trouve à la mairie, qui peut ensuite donner un relais. On va dire que c'est une première porte poussée. Et après, le conseil départemental, qui parmi ses missions ont les missions d'aide et d'accompagnement des femmes victimes. Après, il y a de nombreuses associations spécialisées sur le territoire. Je ne peux pas toutes les citer, mais celles avec lesquelles on travaille le plus au niveau de nos actions, on a le CIDFF, l'association DIR et l'association AJC. C'est également des premières portes d'entrée pour ensuite amorcer l'accompagnement et la sortie le plus rapidement possible de ce type de situation. Il y a également des dispositifs d'hébergement qui peuvent exister sur le territoire, mais voilà, ça sera les associations qui pourront aiguiller en fonction des places disponibles et de la situation. Et puis ensuite, je vais le rappeler, c'est un numéro qui n'est pas nouveau, mais qui a été de nouveau médiatisé dans le cadre du Grenelle dont vous avez parlé au début. C'est le 3919, c'est une plateforme d'écoute gratuite, anonyme, avec des professionnels derrière la ligne, voilà, qui peuvent écouter. Et donc là, une personne concernée directement par les violences peut appeler. Une personne qui a subi des violences par le passé, mais qui voilà, estime ne pas avoir fini...
qui est toujours en reconstruction,
toujours en reconstruction, peut contacter. Solutions. Et on peut aussi, en tant que tiers, donc membre de la famille, voisin, collègue, si on pense être témoin d'une situation, on peut également appeler pour peut-être avoir des conseils et pour peut-être pouvoir aiguiller la personne concernée. Mmh.
Alors vous mettez plusieurs actions de sensibilisation aussi en place. Je ne sais pas si vous avez fini d'ailleurs sur les dispositifs.
Oui, j'ai fini, oui. Ouais,
justement, vous mettez plusieurs actions de sensibilisation en place dans la ville, à destination soit du grand public, soit des plus jeunes, pour prévenir les violences. Le 25 novembre dernier, vous avez organisé une projection, non pas dernier, 25 novembre 2017, pardon, vous avez organisé une projection débat sur cette thématique des violences faites contre les femmes, autour du court-métrage « Avant que de tout perdre », avec notamment Léa Drucker, c'était au grenier à sel à Trappes. On va écouter justement un extrait voilà, de la bande-annonce. Je vous donne quand même le contexte hein, pour que vous puissiez comprendre cette bande-annonce. Myriam, c'est une femme qui est battue depuis des années par son conjoint. Elle décide de quitter le domicile conjugal et de fuir avec ses deux enfants. Elle se rend une dernière fois dans le supermarché dans lequel elle travaille, notamment pour prévenir des collègues de son départ imminent. Et c'est à ce moment précis, alors qu'elle se prépare à fuir avec ses enfants, que son conjoint débarque aux caisses du supermarché. On écoute.
Tiens, c'est Sophie.
Oui, Sophie.
Oui, il regarde les filles en caisse, là, Myriam, il te cherche.
Quoi ?
Il te cherche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir qu'elle a...
Je sais pas, calme-toi.
Il va voir que t'es pas là, faut que tu restes là-haut.
Oui, je sais, t'inquiète pas.
Ok, d'accord, il me regarde, là.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Bah, il me regarde, il m'a vu, quoi, il arrive, il vient vers moi.
Le regarde pas.
Non, non, j'ai baissé les yeux, là.
Ok, écoute-moi bien, Sophie. Tu lui dis que je suis en réunion du personnel.
Oui.
S'il insiste,
oui.
S'il insiste pour me parler, tu fais mine de m'appeler en salle de réunion, mais tu m'appelles chez Didier.
Oui.
Le bureau de Didier, d'accord ?
Oui, madame, enfin, faudra venir avec le ticket de caisse.
Il est là ?
Voilà, donc ça c'est la bande-annonce de cet événement hein, que vous avez organisé avant de tout perdre. Alors, d'ailleurs, pour précision, Xavier Legrand qui a réalisé ce court-métrage, on a fait un long-métrage qui est sorti en 2017 jusqu'à La Garde. Et en 2019, ce film a reçu 4 Césars, dont ceux du meilleur film et de la meilleure actrice pour Léa Drucker. Hein. Voilà, c'est vraiment...
Et j'en profite du coup pour annoncer que ce film sera diffusé dans le cadre des actions du 25 novembre prochain, donc le 26 novembre au Grenier à sel, projection gratuite pour le tout public, et il y aura ensuite la présence d'une association qui animera l'échange après le film.
Mmh. Alors justement, ça c'est une des actions de sensibilisation que vous avez menées en 2017 autour de ce court-métrage. Alors qu'est-ce que vous faites globalement comme action de sensibilisation sur cette thématique ?
Alors chaque année, depuis maintenant 3 ans, on a 2 temps forts qui mobilisent les services et les partenaires. On a le 25 novembre, qui est la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes,
ouais.
Et le 8 mars, qui est la journée du droit des femmes. Je lis les deux thématiques parce que c'est difficile de les dissocier complètement. On n'est pas sur les mêmes enjeux, mais on est sur le même fond. Quand on parle de droit des femmes, de lutte contre les stéréotypes, d'égalité femmes-hommes, de manière sous-jacente, on a les violences qui peuvent arriver derrière, parce que quand on a des inégalités, quand on a des stéréotypes, quand on a de la discrimination, il y a un climat de confiance, il y a un climat de défiance qui s'installe, et climat de violence qui peut ensuite prendre la place. Donc c'est vraiment nos 2 temps forts qui permettent du coup de mobiliser une dizaine de services, des partenaires, afin de mettre en place des actions pour le tout public, pour les jeunes et pour les professionnels.
Mmh. Alors, puisqu'on parle de sensibilisation, on parlait à l'instant de ce ciné-débat que vous avez organisé le 25 novembre 2017. À cette occasion, il y a deux personnes du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles des Yvelines qui étaient intervenues. Je vous propose d'écouter le message d'une d'elles, donc Valérie Canetta, du Centre d'information donc du CIDFF 78. Elle nous parle de l'importance de diffuser au maximum les informations pour lutter justement contre les violences faites aux femmes.
En fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs en place. Alors, ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien, mais comme tout dispositif, il y a des travers. On a toujours aussi des cas isolés qui peuvent très bien on sait que parfois la mise en sécurité, ça se fait pas aussi facilement que ça, le dépôt de plainte, ça se fait pas aussi facilement que ça, etc. Il y a toujours des travers à n'importe quel dispositif, voilà. Mais ce qu'on voulait vous dire quand même, et notamment sur le territoire des Yvelines, c'est qu'il existe un certain nombre d'actions et elles fonctionnent, voilà. Et je voulais juste revenir un tout petit peu sur l'interrogation de madame qui j'avais l'impression que vous nous demandiez aussi finalement ce qu'on faisait pour informer les femmes avant finalement les démarches, hein, c'est-à-dire que au moment où on se sent seul, et c'est ça qui est compliqué, et ça c'est vraiment la plus grande difficulté, c'est-à-dire qu'on sait que quand une personne est victime de violence, elle a été mise à l'isolement par la personne violente, et ça c'est la chose la plus difficile, parce que il faut pouvoir informer, il faut pouvoir toucher la victime, et avant qu'elle puisse se rendre compte que finalement autour d'elle il y a des lieux et il y a des personnes ressources, il y a des personnes pour aider, il y a des processus qui aident. Simplement, la victime, elle est souvent isolée, et ça c'est difficile. C'est pour ça que plus on va en parler, plus on va pouvoir diffuser l'information. Alors chaque territoire fonctionne différemment. On peut vous parler bien sûr du territoire des Yvelines, mais il y a énormément de lieux et de personnes ressources. Voilà. Donc en fait, il n'y a qu'une consigne, c'est en parler. C'est la chose la plus simple. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile de. Parce que la personne qui va pousser la porte d'une association, qui va pousser la porte des services sociaux, qui va pousser même la porte du commissariat, il y a déjà une grosse, grosse démarche derrière qui a été faite. C'est avant qu'il faut. Enfin, c'est celle d'avant, c'est celle qu'on ne connaît pas, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est celles-ci qui sont difficiles à toucher. Et je vous rejoins, c'est. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on peut.
Oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question. Il y a des choses en tout cas à faire. Alors, elle parle, Valérie Canetta, la plus des actions de sensibilisation en direction des femmes qui sont directement concernées. Mais vous agissez aussi auprès du plus jeune public pour essayer, voilà, de travailler, comme vous l'avez dit, sur les questions peut-être de stéréotypes, d'égalité filles-garçons qui sont à la base des violences qui vont se produire après par la suite.
Oui, du coup, ce que j'expliquais, c'est que depuis plusieurs années où on organise des journées, enfin des moments thématiques autour du 25 novembre, on a à cœur, voilà, de proposer des actions pour le tout public, pour les professionnels, pour les sensibiliser, les former, mais aussi pour les jeunes. Et parce qu'effectivement, c'est un public qui est en âge, qui est sur un âge charnière et où la sensibilisation est très importante. Donc, avec les jeunes, on va parler plutôt de relations filles-garçons, égalité homme-femme. Mais rapidement, on arrive, comme je le disais tout à l'heure, on dérive sur ces notions de violence, parce que à partir du moment où on considère que une personne est supérieure à l'autre, c'est qu'il y a domination, et c'est donc qu'il peut y avoir violence ensuite. On a fait intervenir les années précédentes une association, l'association Je tue il, pour parler de ces questions-là autour de débats, autour d'échanges. Moi, à chaque fois que j'assiste à ces séances-là, je suis surprise par le fait que les jeunes se laissent prendre au jeu et sur 2-3 heures débattent, échangent sur ces notions qui ne sont pas forcément simples, qui sont moins drôles que d'autres sorties proposées, et pourtant voilà, les jeunes sont présents et l'échange se fait. Cette année, dans le cadre du 25 novembre, du coup, on a une programmation qui reste en cohérence avec ce que j'ai pu dire tout à l'heure. On va avoir deux temps, un temps pour les 11-17, 11-17 ans autour d'un film débat et un deuxième temps pour les 18-25 autour d'un autre film débat. Et là, on rentre vraiment dans le cœur, là, sur ces deux films-là, au cœur des violences. Voilà, là, on dépasse égalité femmes-hommes, stéréotypes. On sera sur des films adaptés à chaque âge, mais voilà, très, très spécifiques. Et on a une association, l'association AJC, qui sera présente pour animer l'échange et pouvoir reprendre après le film. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la ville en amont de ces actions.
Et vous reviendrez en parler pour cette journée du 25 novembre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur cette thématique. Alors justement, on pourrait se demander quels sont les résultats des actions de sensibilisation que vous menez sur le territoire. Est-ce que vous voyez des changements? Alors c'est peut-être plus difficile à voir chez le jeune public, parce que le jeune public, bon, bah, quand ils ont 11-12 ans, qui sont en plein apprentissage, peut-être que c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Mais est-ce que vous avez des éléments à ce niveau-là?
Donc on constate certaines choses. Après, c'est toujours la prévention, c'est assez diffus, parce que il peut y avoir des déclics sur le moment, mais des fois il y a des déclics qui peuvent intervenir après. Donc en tout cas, par rapport au public jeune, nous on a décidé maintenant depuis 2 ans, en parallèle de ces actions très spécifiques autour du 25 novembre, de remettre en place des permanences du planning familial au sein des espaces jeunes. C'est-à-dire que le planning familial assiste à ces actions flash, mais ensuite est présent une fois par mois dans chaque espace jeune pour animer des temps d'échange, des temps de débat collectif. On n'est pas sur des permanences individuelles, mais ça permet de ne pas être sur une action-réaction face à une situation problématique, mais plutôt d'installer la parole, d'installer ce climat de confiance. Donc ça, on va dire que c'est un apport bénéfique, c'est quelque chose qu'on renouvelle pour cette année. Après, au niveau du public jeune, on essaye de travailler aussi avec les professionnels jeunesse, et voilà, les mentalités évoluent aussi. Et ce qu'on essaye aussi, quand on parlait de stéréotypes, égalité filles-garçons, c'est aussi prendre le temps de reprendre quand il y a des mots, quand il y a des propos, des choses qui peuvent paraître anodines, des choses qui peuvent paraître du quotidien. Ben non, c'était pour rigoler. Ben en fait, essayer aussi de reprendre ces mots-là pour pas que ça se banalise, et éviter la banalisation de la violence aussi. Là, on parle entre filles et garçons, mais aussi la banalisation. Il y a quand même un climat de violence qui s'installe avec des mots, des insultes qui peuvent être récurrentes. Souvent, le sens est perdu. Donc, pour les jeunes, c'est pas grave, c'est pour rigoler, mais c'est aussi important de sensibiliser les professionnels pour réagir et essayer d'éviter au maximum. Sur chaque action qu'on organise aussi pour le tout public, les films débats ou les théâtres forums, on prévoit un créneau qui est dédié à l'espace solidarité, en présence de la directrice de la structure, qui est formée au psychotrauma, qui est psychologue, parce qu'on sait très bien que ce type d'action peut déclencher une prise de conscience, soit d'une situation vécue ou qui a été vécue, soit pour des personnes tiers, on en parlait tout à l'heure. Et du coup, on doit aussi assurer un cadre rassurant, de confiance. Donc l'idée, c'est que le public puisse, le lendemain, ou enfin voilà, la date de la permanence est donnée, venir en parler, et puis ensuite une orientation est faite en fonction des situations. C'est arrivé quelques fois sur les projections qu'on a pu faire. Ouais. Également lors de stands tenus en mairie, des fois des paroles qui se libèrent. Voilà, ou du coup le fait d'en parler, le fait de poser la question, ça, voilà, il y a des choses qui émergent. Donc après on oriente. De toute manière, sur ces dispositifs là on n'est jamais seul, on est accompagné des professionnels du territoire, donc ouais, y a un relais qui peut se faire facilement. Et puis au niveau des professionnels, je dirais une prise de conscience qui se fait, et surtout de comprendre les mécanismes. Voilà, on parlait égalité femmes-hommes, j'en reparle beaucoup, mais le lien qui peut mener aux violences, et puis comment on repère et comment on oriente.
Si un auditeur, une auditrice souhaite avoir plus de renseignements sur cette thématique, soit des droits des femmes, vous avez déjà donné le numéro de téléphone, le 3919, mais est-ce que c'est possible de vous contacter pour avoir des renseignements via la mairie ou autre?
Au niveau des actions locales qui sont menées, je suis effectivement disponible pour répondre à toutes les questions. Après, je l'évoquais, si on a une personne en situation de violence, je conseillerais quand même le parcours le plus rapide. Parce que c'est toujours difficile d'expliquer son histoire et donc démultiplier les interlocuteurs. Moi, je pense que c'est pas forcément idéal, à part quand on a un interlocuteur connu et de confiance.
D'accord.
Mais sinon, pour une personne qui serait en situation de violence, moi je conseillerais soit d'appeler le 3919 ou de se rendre sur les partenaires que j'ai pu citer. Après, pour une personne qui souhaiterait des informations sur les actions à venir ou comment s'investir au niveau local sur ces questions-là, je suis disponible pour répondre aux questions.
Merci en tout cas d'être venu au micro de Marmite FM pour nous parler de cette thématique des violences faites aux femmes. Et puis rendez-vous le 25 novembre pour cette journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Léa Zdravkovic, responsable prévention sécurité pour la mairie de Trappes. Merci.
Merci à vous.
Voilà, c'est terminé pour Marmite fait son actu. Rendez-vous samedi de 10h à 18h au forum des associations de la ville de Trappes au gymnase Broustal, comme chaque année. On y installera notre studio mobile pour donner la parole aux associations. Merci à Julien, à la technique. Bonne suite de programme sur Marmite FM et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, un seul numéro à retenir, 3919. Merci à tous.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.